BFM TV, Calvi 3D, Yves Calvi.
Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Alors, nous étions sur place il y a quelques instants. Un rassemblement est donc organisé ce soir, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Mobilisation après le viol et l'agression antisémite subie par cette jeune fille de 12 ans samedi dernier à Courbevoie. Je vous le rappelle, les suspects sont trois jeunes adolescents âgés de 12 et 13 ans. L'ensemble de la classe politique a réagi. Jacques Attali, êtes-vous inquiet de la montée des actes antisémites dans notre pays ?
C'est malheureusement un fait indiscutable. C'est un fait certain qui s'explique par la persistance de l'antisémitisme d'extrême droite, parce que le Rassemblement national est l'héritier du Front national, qui est un parti antisémite, donc il ne faut pas oublier cet antisémitisme-là. Mais comme ils sont plus anti-musulmans aussi, leur antisémitisme se masque. Et puis c'est l'antisémitisme d'une fraction de LFI qui s'exprime d'une façon antisémite, d'une façon très claire.
Vous les mettez dos à dos, ces deux maisons politiques, si je puis dire,
absolument,
dans leur rapport à l'antisémitisme.
Absolument. Ils s'expriment différemment. Je ne dis pas que tous les électeurs, je ne parle pas des électeurs ici, d'aucune façon, car les électeurs qui votent Rassemblement National ne sont pas antisémites par nature, ni ceux qui votent LFI. Mais dans le comportement des dirigeants, dans l'histoire des partis, dans ce à quoi ils appellent, il y a certainement ça, malheureusement.
Oui. Vous comprenez Serge Klarsfeld quand il explique que s'il doit faire un choix, il votera pour le Rassemblement National face à la France Insoumise ?
Non, moi je pense que ce qu'il faudra faire le soir du premier tour, à la fin du premier tour, c'est un rassemblement de tous les Républicains, excluant le Rassemblement National et la plupart des candidats. Je ne dis pas tous les candidats filles, parce qu'il y a des candidats filles parfaitement respectables, mais la plupart d'entre eux. Donc ça se jouera poste par poste.
Alors nous sommes rejoints par Tuc Dueldenis, qui est directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro, Anne-Charlène Bézina, politologue et constitutionnaliste, et Laurent Neumann, éditorialiste de BFM TV. Tuc Dueldenis, Marine Le Pen a été l'une des plus véhémentes en accusant directement les insoumis de stigmatiser les Juifs de France et d'avoir sa part de responsabilité dans la hausse des actes antisémites. Elle a vraiment coupé le cordon, selon vous ?
Je suis désolé, mais est-ce que je peux poser d'abord une question à Jacques Attali ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le Rassemblement National a été applaudi, pour ne pas dire acclamé, lors de la marche contre l'antisémitisme après le pogrom du 7 octobre, quand les élus, les cadres insoumis, dès qu'ils approchent de près ou de loin une manifestation de soutien aux Juifs, sont hués ?
Je peux avoir un avis différent des foules. Et j'ai un avis différent des foules.
Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que les Juifs de France applaudissent Marine Le Pen ?
Certains d'entre eux, ceux qui sont là, et je ne parle pas ni en leur nom ni au nom de personne, je considère que le Rassemblement National est l'héritier qui n'a pas totalement coupé avec son héritage, et que donc il faut considérer qu'il y a encore des racines antisémites dans l'historique de l'extrême droite qui sont toujours là.
C'est bien un sujet, en tout cas, sur lequel ils ont coupé avec leur héritage. C'est quand même la question de l'antisémitisme.
D'où ma question, ouais. C'est est-ce que Marine Le Pen, la concernant, très honnêtement, je n'ai aucun doute, mais selon vous, aujourd'hui, a réellement coupé ce cordon ?
Ah ben, je suis sûr et certain. Et d'ailleurs,
elle peut très bien ne pas être antisémite, je vous avoue que je n'ai aucun doute là-dessus, mais avoir autour d'elle encore quelques membres de groupuscules dangereux. On a eu deux exclusions aujourd'hui. Hein.
Oui, mais parce que, bon, elle ne peut pas connaître tous les cadres, les élus locaux, etc., ou les candidats putatifs qui pourraient vouloir concourir.
Il y a un parti politique quand même qui vise à accéder au pouvoir.
On va reprendre le distinguo entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Vous avez d'un côté un parti qui, dès qu'il apprend que quelqu'un de près ou de loin a des positions antisémites, fait des posts sur les réseaux sociaux antisémites, l'exclut immédiatement. Et de l'autre côté, côté France Insoumise, vous avez un parti où David Guiraud, un député, fait des références antisémites en utilisant des expressions qui normalement s'utilisaient dans les mangas pour désigner les Juifs. Vous avez Daniel Obono qui parle du Hamas comme un mouvement de résistance. Vous avez Rima Hassan.
Personne ne discute cela.
On discute le fait qu'il y a quand même un parti qui est aujourd'hui objectivement anti-juif et un autre qui essaye de se débarrasser d'un passé lointain où effectivement il y avait espèce d'ambiguïté sur le sujet.
Vous avez raison, vous avez dit qui essaye. Mais c'est pas fait.
Bah, qui essaye avec un certain succès, puisque apparemment les Juifs votent pour eux, les Juifs les applaudissent.
Mais encore une fois, c'est pas, vous m'avez demandé mon avis, pas celui des sondages ou des masses, c'est pas le mien.
Sondages ou des élections.
Laurent Neumann, rappelons-le, le ménage continue, en tout cas au RN, puisqu'il y a encore eu deux exclusions aujourd'hui. Hein.
Oui, parce que...
Et en même temps, on l'entend, les fantômes sont toujours présents.
Marine Le Pen, dans sa stratégie de banalisation, de normalisation, ne veut absolument pas que la moindre histoire puisse nuire au récit qu'elle tente de faire déjà depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, effectivement, deux candidats, un sous la bannière du Rassemblement National et l'autre, si j'ai bien compris, sous la double bannière Rassemblement National Éric Ciotti, ont été exclus pour des tweets d'ailleurs, pardon, mais alors là, pour le coup, d'une violence et d'un antisémitisme là, qui ne fait absolument aucun doute. Là, on n'est pas dans l'appréciation, etc. Et je m'étonne
on
que...
On le revoit à l'antenne. Hein.
Ça fait un moment maintenant que... D'ailleurs, l'un des deux, je le précise, avait déjà été investi lors des précédentes élections législatives. Donc, c'est pas nouveau. Hein. Il le découvre maintenant parce qu'un journal a retrouvé un certain nombre de propos, mais c'est pas nouveau. Donc... Oui, il y a un récit où Marine Le Pen ne veut plus qu'on lui accole, comme c'était le cas pour son père, cette étiquette infamante. Et depuis quelque temps, cette étiquette est passée à la France insoumise, ou plus exactement sur certains insoumis qui tiennent des propos ou qui prennent des positions qui, sous couvert d'antisionisme, peuvent clairement être assimilées à de l'antisémitisme. Mais c'est très intéressant parce que j'ai relu très attentivement les propos qu'a tenu Serge Klarsfeld.
Oui.
Et donc on retient qu'il voterait Rassemblement National contre un candidat du Front Populaire. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Hein. Je vous engage à les lire.
Un candidat LFI, d'après moi.
D'abord, il a dit « je voterai pour un candidat de l'actuelle majorité, donc du Bloc central. Et si la question se posait entre un candidat du Rassemblement National et un candidat La France Insoumise, pas Front Populaire, je voterai pour le candidat du Rassemblement National. Oui. » Et son fils, qui était sur ce plateau il y a quelques minutes, il y a moins d'une heure, disait « par extension, tous ceux qui font partie du Front Populaire et qui ont accepté de s'allier avec la France Insoumise, connaissant leur position, alors mon père ne voterait pas non plus pour eux. » Mais ce n'est pas tout à fait ce que Serge Klarsfeld a dit. Voilà.
Guillaume Tabar, ce thème risque en tout cas de diviser un peu plus le nouveau Front Populaire, avec plusieurs familles politiques, dont certaines n'ont jamais été accusées, je pense notamment au Parti Socialiste, d'un quelconque antisémitisme. Comment font-ils pour coexister ?
Ben justement, c'est un vrai problème, et je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal, pour ne pas dire carrément malhonnête, de la part d'un certain nombre de responsables politiques, finalement, qui ne sont suspects d'aucun antisémitisme ni rien, de mettre en avant une alliance avec un parti où il y a des problèmes sérieux qui se pose quand on son regard sur Israël, etc. Donc dire assumer une alliance qui va les faire élire et qui va faire d'eux ce qu'on oublie souvent. Le lendemain de l'élection, les députés élus dans cette coalition de gauche, ils seront des élus de cette coalition-là. Bon, ils seront pas. Bon, c'est trop facile de dire. On se fait élire ensemble, mais une fois qu'on a l'Assemblée, eux c'est eux, nous c'est nous. Je veux dire qu'il faut un minimum de cohérence. Donc oui, je pense qu'il y a quand même. Alors, j'ai pas parlé de culpabilité, ça c'est un langage politique, mais au moins que chacun assume que quand on fait alliance à quelqu'un, on fait alliance avec lui. Pendant longtemps, les mêmes à gauche ont accusé les partis de la droite, LR, l'UMP, l'URPR, avant, etc., de bien pire. Sous prétexte même le fait d'un jour de déjeuner avec un élu du Front National, c'était déjà être complice des pires heures. Bon, là, c'est une alliance politique. Donc, il faut garder un langage cohérent. Ensuite, par rapport à tout ce qu'on dit sur l'image de l'antisémitisme, etc., moi, je suis le premier à croire à l'importance de l'histoire. Et l'histoire, elle ne s'efface pas, elle se porte. Bon, mais il faut aussi regarder ce que sont les partis, les acteurs du jeu politique à un moment donné. Est-ce que sous prétexte que le Parti communiste, non seulement n'a jamais changé de nom, mais aussi tard qu'il l'a pu, a été totalement aligné sur l'Union soviétique, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que Fabien Roussel est comptable des crimes de Staline ? Personne n'ose le dire. Et pourtant, il est toujours patron d'un parti communiste qui n'a jamais changé de nom et qui n'a jamais abrogé cette histoire.
Et qui s'appelle le PCF, le Parti communiste français.
Jordan Bardella, il y a quelques semaines... Oui. Considérait que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite.
Il n'a pas dit ça. Il s'est même corrigé.
Il a dit exactement ça.
Ensuite, concernant le Rassemblement National, ça fait en gros depuis que Marine Le Pen a pris la tête du Front National et qu'elle a transformé, je crois que personne n'a pu déceler en elle non seulement la moindre phrase, mais même la moindre arrière-pensée antisémite.
Bon. C'est vrai.
Et je pense à Jean-Marc Bardella, a fortiori. Bon. Et donc, je trouve un peu aussi compliqué pour un parti LFI qui multiplie les dérapages. Je dirais, ah oui, mais ça fait 7 ans qu'on voit, il sème le bordel à l'Assemblée, etc. Et on dit, oui, mais enfin, c'est horrible ce qu'il fait, mais quand même, bon, ça reste un parti républicain. Et par contre, ne pas jamais prendre acte que le RN, lorsqu'il se comporte bien, entre guillemets, on dit, ah oui, mais c'est parce qu'il cache la réalité. Il y a un moment où il faut prendre acte de la réalité actuelle des partis.
Mais pardon,
et à ce jour, si je peux terminer, la réalité du RN.
Je veux bien donner la parole à Anne-Charlène Bézina.
N'est pas celle de la caricature qu'il en a eue, et la réalité du LFI n'est pas non plus l'image angélique que ses nouveaux alliés cherchent à en donner.
Et ce sera notre dernier propos sur ces questions relatives à qui, dans notre pays aujourd'hui, continue à contribuer à une forme d'antisémitisme, notamment dans nos formations politiques.
Mais je crois qu'en fait, il faut qu'on essaye de recentrer le débat. On dérive sur la question de savoir quel parti soutient ou ne soutient pas l'antisémitisme, ou la question, en tout cas, de la survie de l'unité nationale est une question qui n'est même pas une option. Juridiquement, c'est déjà quelque chose de pénal. Et en plus, on parle de l'unité de la nation. On est aujourd'hui en train de vivre des élections anticipées. Si on n'a pas un message à l'égard des Juifs de France qui vivent aujourd'hui cette attaque en leur sein, pour préciser que cette question est une question d'unité nationale, est une question du peuple français, de valeur, de république. Au fond, on se trompe de parti. À mon sens, ce message doit être universel. On ne se pose pas la question des échiquiers politiques, on fait le nettoyage. Chacun doit prendre sa responsabilité face à la montée de cette question. C'est quelque chose qui est inacceptable pour le peuple français au regard de ses racines et de son histoire. Donc, moi, je crois qu'il faut essayer d'éviter les querelles partisanes ou la question de la récupération pour rappeler tout simplement que c'est un message qui est inacceptable pour l'intégralité du peuple français, et les électeurs sauront le dire, évidemment, dans les urnes. Rappelons que c'est une question de sécurité publique, d'unité nationale. Aucun parti ne peut laisser germer ce genre de position. Ah. C'est trop dangereux.
Alors, parlons de ces législatives. Jacques Attali, comment avez-vous réagi, vous, à l'annonce de la dissolution? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose?
Je l'ai écrit, je l'ai dit, en dehors d'être venu chez vous ce soir. Je trouvais que ce n'était pas une bonne décision. J'ai dit que j'étais très en colère contre le président de la République pour avoir pris cette décision. Que s'il fallait, parce que si, d'abord, s'il avait fallu faire une décision de dissolution anticipée avec une campagne très brève, il lui fallait le faire le lendemain de son élection présidentielle. S'il avait fait ça le lendemain et qu'on avait une campagne de 20 jours, sans doute aurait-il eu une majorité large et on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler.
Emmanuel Macron vous dit, c'est j'ai pris la décision la plus responsable.
Oui.
C'est la solution la plus responsable. Oui. C'est le terme qu'il emploie.
D'abord, faire ça juste avant les Jeux Olympiques était une absurdité vis-à-vis des Jeux qui auraient dû être les Jeux de 1924 et vont peut-être être les Jeux de 1936 en termes d'image internationale qu'on va donner au reste du monde. Mais si j'en viens à des choses plus importantes, je crois que, par rapport à votre question, il y avait un vrai enjeu double. C'était le fait qu'il allait rencontrer un mur à la rentrée parce qu'il y avait un risque de motion de censure. Mais il y a un deuxième mur dont on parle peu, qui est le fait que le budget 2025 est commencé à être préparé comme il doit l'être, c'est-à-dire un budget d'extrême rigueur, puisque la France est en faillite. Elle est le seul pays de l'Union européenne qui a un déficit commercial, un déficit de balance des paiements, un déficit budgétaire, un déficit de budget primaire. Nous sommes en faillite. Donc le budget 2025 allait être un budget extrêmement rigoureux et qui naturellement n'allait pas passer et qui naturellement allait être très difficile. Peut-être consciemment ou inconsciemment a-t-il pensé qu'il valait mieux passer la responsabilité à d'autres. Et naturellement, c'est pour ça que je suis aussi en colère contre tout le monde, c'est que tous les programmes qu'on nous annonce, personne n'en fera le demi-quart du dixième.
Vous nous dites qu'il se défausse de la rigueur budgétaire en filant le bébé à ceux qui arriveront au pouvoir.
Je ne pense pas qu'il soit conscient. Je ne pense pas que ce soit le choix qu'il fait, mais je pense que c'est la réalité objective des choses. Et c'est pour ça que je pense que ce serait tragique de confier le pouvoir aujourd'hui à des gens qui veulent dépenser des sommes qu'on n'a pas. Le programme du Rassemblement. D'ailleurs, ça m'amène à une chose plus, si je peux me permettre, importante. Quand on fait des élections anticipées, ça révèle quoi? Ça révèle, est-ce que les partis sont prêts à prendre le pouvoir, à exercer le pouvoir? La preuve qui a été donnée ici, c'est que les partis ne travaillent pas. Aucun des partis aujourd'hui en lice travaille, pour préparer un programme sérieux et être prêt à affronter les électeurs. Au point qu'on voit bien le Rassemblement national qui dit « Oh là là, je vais rien faire, je vais faire un audit, on verra après ». Et revient sur toute la proposition. La gauche qui improvise un programme qui n'est évidemment pas bouclé et le centre qui ajoute des promesses alors qu'ils étaient en train de faire des économies. C'est l'improvisation. C'est un pays dans lequel la classe politique ne travaille pas, ne prépare pas les élections, alors que ça devrait être son seul travail, tant dans l'opposition qu'au pouvoir.
Ça explique les dernières décisions de Jordan Bardella, qui en gros nous dit « je n'ai pas envie d'y aller de cette façon, en tout cas je n'irai pas à Matignon sans un... » En tout cas, l'ensemble des rênes du pouvoir, et la majorité absolue par définition.
Je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, la seule erreur tactique qu'ils ont commis depuis le 9 juin, le Rassemblement national, c'est d'avoir annoncé qu'ils abrogeraient bel et bien la réforme des retraites à l'automne. Je pense que quand un parti conventionnel annonce une reculade, c'est perçu comme un reniement. Je pense que quand le Rassemblement national annonce un petit retour en arrière ou tirer sur les rênes du cheval, c'est perçu comme le début de peut-être de quelque chose de raisonnable.
Ah ben, Hercule aussi sur le voile dans l'espace public et sur la TVA. Oui. Donc,
mais est-ce que vous aimeriez, vous, que Jordan Bardella, élu Premier ministre, sa première décision, ça soit d'interdire le voile dans l'espace public? Vous ne pensez pas que ça fracturerait la société française du jour au lendemain et qu'il y a peut-être d'autres urgences, à commencer par expulser les gens qui ont des obligations de quitter le territoire français?
Ça fait 10 ans qu'il fracture l'espace public en proposant ce genre de mesures.
Bah, non, mais il propose tout un panel.
Ou que l'espace public est fracturé par le port du voile.
Oui. Déjà, petit 1,
ça marche dans les deux sens.
Il propose tout un panel de mesures, mais à l'intérieur de laquelle celle-ci. Mais moi, pour rebondir sur ce point.
S'il ne parle pas à ses électeurs, il parle à qui?
Ah bah à tous les macronistes qui hésiteraient dans un duel entre le Rassemblement national et le Front populaire de voter pour le Rassemblement national, à tous les électeurs de droite qui hésiteraient de voter pour le Rassemblement national, évidemment. Et j'ajouterais à ces prudences, ces préventions de la part du Rassemblement national, le cadeau extraordinaire que leur a fait Emmanuel Macron en leur offrant une cohabitation, c'est-à-dire une sorte d'aérofrein vis-à-vis des marchés, vis-à-vis des investisseurs étrangers, vis-à-vis de l'ordre public, c'est-à-dire que Bardella à Matignon avec Emmanuel Macron à l'Élysée, c'est pas la même chose que du jour au lendemain, Bardella à Matignon avec Marine Le Pen.
Alors, je vois que ça vous fait réagir, et après, je vous donne tout de suite ma prochaine question, parce que moi, ce qui me frappe pour l'instant, c'est qu'en tout cas, les Français sont intéressés. On n'a jamais eu autant de procurations au-dessus de 700 000. Enfin, c'est 700 000 en une semaine, c'est faramineux. Hein.
Oui, je vais
en deux temps, oui, je vous en prie. Mais vous répondez les procurations.
À la question de la cohabitation. J'entends souvent, en effet, dans ce débat public, cette idée que le Rassemblement national au gouvernement, avec un président de la République en marche, pourrait être un contre-pouvoir. Qu'on soit bien clair sur cette question, notre Constitution ne souffre aucune double lecture. Là-dessus, le président de la République, lorsqu'il n'a pas de majorité au sein de son Assemblée nationale et qu'il est en cohabitation avec son Premier ministre, perd absolument tous ses pleins pouvoirs. On adore parler de présidentialisme en France. C'est une aberration en période de cohabitation. Il lui reste ses pouvoirs propres, c'est-à-dire le référendum, dont, c'est vrai, le Rassemblement national essaie souvent de parler dans le débat public, donc ça privera de quelque chose, et la révision de la Constitution, puisqu'il faudrait se mettre d'accord avec le Sénat. Oui. Mais pour le reste, le président de la République, même à l'international, va devoir travailler avec un Premier ministre au sein de l'Union européenne, au sein des instances internationales, puisque, certes, chef des armées, le Premier ministre est quand même celui qui dirige un gouvernement qui est responsable de la défense. L'envoi d'armes et commandé par un secrétariat général au sein de Matignon. Donc, encore une fois, on pourrait multiplier les exemples où la capacité de nuire est en réalité des deux côtés. Donc, je ne suis pas certaine qu'on puisse entendre aujourd'hui dans le débat public que le président de la République offre une sorte de pare-feu au programme politique du Rassemblement national. Si ce dernier change de programme politique, c'est peut-être parce que juridiquement, il y a eu certains éléments qui ont déjà été vérifiés dans le débat public et parce que la constitutionnalité reste la constitutionnalité, qu'un président soit là ou pas. Donc le président ne sera pas un contre-pouvoir de son Premier ministre. Le Premier ministre gouvernera s'il a sa majorité au sein de l'Assemblée.
Guillaume Tabar, vous avez l'air songeur.
Oui, je partage l'avis d'Anne Charlène sur le plan constitutionnel, effectivement, mais la vie politique, c'est les institutions et c'est aussi les hommes qui mettent en œuvre.
Bon. Et les femmes.
Les hommes et les femmes. Quand je dis les hommes, c'est le...
Ah oui, pardonnez-moi.
L'humanité,
bien sûr.
Je veux dire par là, c'est que dans cette cohabitation, dans une cohabitation quelle qu'elle soit, entre un président de la République, par définition battu, et un Premier ministre, par définition vainqueur d'élection, il y a aussi un rapport de force qui s'installe et qui...
Au défaveur du premier, en plus. Ben,
en faveur, finalement, du plus puissant. Je prends un seul exemple. Vous l'avez rappelé, même sur les questions, d'abord, de nomination de gouvernement, et y compris même sur les questions de politique étrangère et de défense, on dit toujours qu'il y a le domaine régalien, mais formellement... Bon. Or, souvenez-vous, 86, Jacques Chirac veut nommer Jean Le Canuet aux affaires étrangères, François Léotard à la défense. François Mitterrand, qui est à l'Élysée, dit « pas question, ces deux-là, je n'en veux pas ». Il n'a aucun moyen constitutionnel de l'imposer, mais Chirac cède. En revanche, 7 heures plus tard, nouvelle cohabitation, Édouard Balladur, il nomme le même Léotard à la défense, cette fois-ci Mitterrand accepte. Pourquoi ? Peut-être que Léotard avait changé aussi entre-temps, mais aussi simplement que dans un cas, 86, Mitterrand avait gardé quand même une force personnelle et face à un Jacques Chirac, il a pu imposer des choses. Ce n'était plus le cas avant. Et donc là, la question, c'est est-ce que Emmanuel Macron, dans une hypothèse de cohabitation avec Jean Bardella, aurait encore un crédit personnel lui permettant de résister à un certain nombre de choses ? Pour l'instant, je trouve qu'il ne l'a pas.
Jacques Attali, vous voulez intervenir ?
Si nous avions le temps, je vous aurais expliqué comment ça s'était passé en 86, puisque j'étais un des rares à y être.
Voilà. Et vous me frustrez énormément, parce que nous n'avons pas le temps, et j'ai une question très importante à vous poser ensuite. Mais non, mais voilà, si vous voulez bien nous dire deux mots, on est ravis.
On n'a pas le temps, et ça mériterait du temps. Mais ce que vous venez de dire est très juste. C'est une question d'affrontement de personnalité.
D'affrontement de personnalité.
Oui. Et François Mitterrand, nous étions en défrichage. Il n'y avait pas de précédent. Nous avons inventé les précédents. Nous étions trois à l'Élysée à ce moment-là. Il y a eu des moments de crise extrêmement graves sur la politique étrangère, sur la défense. Il y a même eu une nuit où on a passé la nuit à l'Élysée parce que l'ambition de Jacques Chirac, c'était que François Mitterrand ne termine pas son mandat. Oui. Exactement, qu'il parte tout de suite. Oui. Et à un moment, il y a eu un soir, un coup de téléphone, j'étais dans le bureau du président à ce moment-là, où il a laissé entendre que le président était en situation de forfaiture. Et nous avons passé la nuit à l'Élysée parce que nous craignions quelque chose. Bon.
En être délogé.
Voilà. Le Premier ministre a cédé. Donc il y a une question de rapport de force. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que ce rapport de force était parfaitement renforcé dans le cas de François Mitterrand parce qu'il pouvait être réélu. Et parce qu'il avait la perspective d'un avenir politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'une cohabitation aujourd'hui serait plus difficile pour le président que celle que nous avons vécue.
Ça veut dire que la grande coalition éventuelle du post-7 juillet du second tour est quelque chose d'inimaginable à vos yeux ?
Elle est tout à fait nécessaire. C'est à mon avis la seule solution raisonnable avant les présidentielles. C'est la seule solution raisonnable avant les présidentielles.
Une période tampon ?
Oui, une période de respiration pour qu'on reprenne nos esprits. Si vous voulez, il y a un point très important pour moi. Quand on regarde les sondages, il y a une question qu'on ne pose pas assez souvent, qui n'est pas la question pour qui vous allez voter, ni qui pensez-vous qui va gagner, c'est qui souhaitez-vous voir gagner. Or, dans la réalité, les Français votent comme ils le souhaitent, pas comme ils ont l'intention de voter. Et pratiquement toujours, le résultat des élections correspond à ce que les Français souhaitent, parce qu'ils ont une intelligence exceptionnelle. Or, aujourd'hui, une des rares choses qui me rassure, il n'y en a pas beaucoup,
oui, j'ai bien compris,
c'est que le dernier sondage que j'ai vu sur cette question donnait seulement 30% des Français qui souhaitaient la victoire du Rassemblement national. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 80% qui souhaitent quoi que ce soit d'autre, ils sont très divisés. Mais si les Français intériorisent le fait que, très majoritairement, ils ne veulent pas le gouvernement du Rassemblement national, alors ils ne l'auront pas.
Vous faites partie de ceux qui pensent que le RN peut avoir une majorité absolue ?
C'est possible. C'est possible parce que Jacques Attali dit quelque chose de très juste, mais que je lis à l'envers, si j'ose dire. Il y a effectivement 30 à 40% des gens qui veulent que le Rassemblement national exerce le pouvoir. Les motifs, on les connaît, les autres ont échoué, eux, on ne les a pas essayés, c'est le moment, etc. Très bien. Mais il y a 60% des gens qui n'en veulent pas, et parmi eux, une très grande majorité de gens qui en ont peur de cette perspective. Le problème, c'est que ces 60%-là sont totalement divisés. Ils pensent radicalement des choses différentes. Des gens de droite, des gens de gauche, d'extrême gauche pour certains, des gens qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron, d'autres qui pensent que c'est la bonne solution de le garder. Ils sont incapables, ces gens-là, de s'unir. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour de ces élections législatives ? Beaucoup de triangulaires ou pas. Vous posiez à Anne-Charlène la question des procurations. À qui ces centaines de milliers de procurations vont-elles bénéficier ? Est-ce que mécaniquement, mathématiquement, ça ne va pas augmenter le nombre de triangulaires ? Et si c'est le cas, à qui ça va profiter ? A priori, on a envie de dire
donc ce qui est très important,
plutôt au Rassemblement national.
Ce qui est
national.
Très important, c'est de savoir quels désistements auront lieu au soir
exactement.
Du premier
exactement.
Tour.
Ça, c'est clé. Tout ce qu'on est en train de se dire là, les sondeurs ne sont incapables
d'y répondre.
De nous le dire maintenant. Voilà. Et en réalité,
c'est ce qui rend les choses intéressantes d'ailleurs.
Tout va se jouer entre le lundi et le mardi qui vont suivre le premier tour, parce que dans ces quatre triangulaires, est-ce qu'il y aura des désistements ou pas ? pour faire le fameux barrage républicain ou non au Rassemblement national. Personne ne peut le dire ce soir. Personne.
Moi, je dis honte à ceux qui ne le feront pas.
En un mot, il y aura 48 heures à l'issue de ce tour pour choisir qui sera vraiment dans les triangulaires ou qui se désistera. Et c'est vrai que c'est dans cette campagne de deuxième tour, dont on parle très peu en réalité, que se jouera l'avenir de l'Assemblée nationale. Parce que c'est avec ceux qui se seront désistés ou qui se seront maintenus qu'il faudra arriver à gouverner demain. Donc la question n'est pas tant celle du premier tour où on a l'habitude d'avoir plus de l'opinion, mais celle du deuxième où on aura de l'élimination. Et là, ça va être cardinal.
Merci à tous.